sur la Radio Mondiale. À demain.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Liban et la Jordanie sont directement touchés par la crise des réfugiés syriens. Il faut dire que ces derniers y représentent respectivement 25 et 15% de la population. Or, ces deux voisins de Damas sont des économies intermédiaires qui ne peuvent donc pas recevoir les aides internationales habituellement dévolues aux pays pauvres. C'est pourquoi la Banque mondiale et le HCR lancent une mobilisation des ressources financières et des collaborations pour aider non seulement les réfugiés, mais aussi le développement des pays d'accueil. Nous verrons cela avec le directeur du projet de la Banque mondiale, Franck Bousquet. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
La guerre en Syrie n'a pas seulement un impact sur la société civile syrienne, elle a aussi de lourdes conséquences sur les pays voisins qui accueillent plusieurs millions de réfugiés. On estime désormais que ces réfugiés représentent 25% de la population libanaise et environ 15% de la population jordanienne. La Banque mondiale, associée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, publie un rapport spécifique sur la situation économique des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban. Nous en parlons avec notre invité Franck Bousquet. Bonjour.
Bonjour.
Directeur des programmes, des partenariats et des solutions intégrées pour la région Afrique du Nord-Moyen-Orient à la Banque mondiale. Alors l'accueil des réfugiés dans ces deux pays limitrophes de la Syrie, s'est-il fait de la même façon ?
Alors c'est un point important. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis de nombreuses années, ces deux pays ont été extrêmement chaleureux, accueillants envers les populations syriennes. Vous mentionnez des chiffres, faut essayer de mettre ces chiffres en perspective. On a au Liban 1,5 million de réfugiés. Donc c'est à peu près 25% de la population. La population du Liban elle-même, elle est passée en moins de 3 ans de 4,2 millions à 5,5 millions d'habitants. Alors pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, ça veut dire que c'est l'équivalent de la situation suivante. C'est l'ensemble de la population du Mexique qui trouverait refuge aux États-Unis en l'espace de 2 ans.
Donc
c'est énorme. Donc voilà. Donc elle s'est fait de manière, les frontières ont été ouvertes, les populations syriennes réfugiées sont venues trouver terre d'accueil à la fois en Jordanie et au Liban. Il y a peu de camps. En fait, sur l'ensemble des deux pays, 80-90% de la population vivent dans le milieu tissu urbain avec les populations qui les accueillent. Et encore une fois, ce qu'on peut essayer de regarder, le dernier chiffre qui est assez frappant, c'est que au Liban, le nombre de réfugiés par habitant est le plus important de n'importe quel autre pays dans le monde. Donc, c'est vraiment des pays très accueillants.
Alors, le risque, c'est que ces réfugiés tombent dans la pauvreté, n'aient pas de moyens de subsistance. Alors, que pouvez-vous faire, la Banque mondiale, avec le HCR pour les aider?
Alors, ce n'est pas un risque, hein, c'est une situation actuelle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, justement, ce dernier rapport qui vient d'être publié par la Banque mondiale et le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies montre clairement que 7 réfugiés syriens sur 10 sont déjà en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas qu'ils risquent de basculer, c'est le cas déjà. C'est déjà d'ores et déjà, c'était des populations qui étaient assez pauvres, très souvent milieu plutôt agricole, qui sont été traumatisées par la guerre et qui arrivent et qui malheureusement trouvent pas vraiment une véritable intégration. Et c'est très délicat de trouver des emplois, ne bénéficient pas toujours de tout l'ensemble des services municipaux. Donc qu'est-ce qui peut être fait déjà? Il faudrait dire que les deux pays n'ont pas attendu la communauté internationale pour réagir. Ils ont puisé sur leurs ressources propres pour financer des biens services publics, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'école, que ce soit en matière de gestion des déchets, que ce soit... Ces pays se sont énormément endettés. Vous avez au jour d'aujourd'hui, par exemple, deux petits chiffres qui sont importants. Si on regarde le Liban, le ratio de la dette sur le produit intérieur brut est de l'ordre de 131%. Si on regarde la Jordanie, le ratio de la dette sur le produit intérieur brut est de l'ordre de 90-95%. Donc ces pays ont puisé dans leurs ressources propres et demandent à la communauté internationale de bien vouloir les aider. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'ils réalisent en ouvrant leurs frontières un bien public mondial. Sinon ces réfugiés aussi iraient ailleurs, alors qu'au jour d'aujourd'hui, essentiellement, comme je l'ai indiqué avec les chiffres, il y a plus de 2 millions de réfugiés qui se sont installés en Jordanie et au Liban.
Pourquoi aujourd'hui ces deux pays ne sont-ils pas aidés plus directement? Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui sont aidés directement par la communauté internationale et par la Banque mondiale.
Alors ces pays sont aidés directement. Vous avez pu voir la dernière conférence de Londres qui a été vraiment un succès, où plus de 10 milliards de dollars de dons ont été mobilisés. Au jour d'aujourd'hui, ce que fait la Banque mondiale en partenariat partenariat avec les Nations Unies et la Banque islamique de développement, c'est d'aller au-delà, c'est de regarder également comment les organisations multilatérales, c'est-à-dire les différentes banques de développement, puissent apporter des financements concessionnels à ces pays. Alors, permettez-moi juste de dire en deux mots de quoi il s'agit, parce que c'est pas toujours très clair. Au jour d'aujourd'hui, ces deux pays, le Liban et la Jordanie, sont des pays à revenus intermédiaires. D'accord?
Donc, ce ne sont pas des pays pauvres.
Donc, ce sont pas des pays pauvres. Alors, c'est le grand dilemme. C'est à la fois des pays qui sont extrêmement fragiles, qui ont un choc externe, c'est-à-dire l'afflux des réfugiés incroyable, je viens de mentionner les chiffres, l'endettement, etc., mais qui ne bénéficient pas de financements concessionnels, c'est-à-dire des financements à taux très bas. Donc, l'initiative de la Banque mondiale, en partenariat avec les Nations Unies, consiste précisément à lever des fonds auprès de donateurs, des pays du G7, pays européens, tout pays qui est prêt à supporter cette initiative, pour faire en sorte que on puisse acheter les taux d'intérêt et faire en sorte que le financement devienne concessionnel à des coûts très bas, c'est-à-dire des échéances de 30 ans sur 1,5% et des périodes de grâce de 4 ans.
Mais est-ce que vous visez avec ces dotations les réfugiés ou vous visez le pays d'accueil précisément ?
Alors ça, c'est un point très important, merci. Il ne suffit pas d'aider les réfugiés, parce qu'au contraire, uniquement, vous risquez d'aggraver les tensions sociales. L'approche est toujours conjointe. On aide les réfugiés et les populations hôtes. D'une part, parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 90% des réfugiés se retrouvent non pas dans des camps, mais insérés dans le tissu de la société. Et donc, il est très difficile de pouvoir distinguer un Syrien d'un Jordanien ou d'un Syrien d'un Libanais. Mais également, il faut voir qu'il risquerait d'avoir des tensions sociales si l'on ne fait pas attention à la manière dont on supporte ces populations. Donc, l'approche est toujours conjointe. Et d'ailleurs, c'est la position des autorités, c'est de bien faire en sorte que cela ne se fasse pas aux dépens des populations hôtes.
Alors, on comprend l'argent qui peut aller pour un certain nombre de services publics dans ces deux pays, le Liban et la Jordanie. Est-ce qu'il y a aussi des aides, par exemple, pour créer des emplois, par exemple, pour faire de la construction d'immeubles, pour accueillir les réfugiés et d'autres, bien entendu?
Alors, point très important, il suffit pas uniquement de financer des services publics, comme vous venez de le dire, mais c'est également d'essayer de trouver des emplois pour ces réfugiés et les populations hôtes. Donc, c'est ce que la Banque mondiale s'attache à faire en aidant les autorités à créer des zones spéciales économiques à la frontière de la Jordanie, dans le nord, où l'on pourrait employer des Syriens et également à lancer des activités à haute intensité de manœuvre. Donc ça, c'est un point très important. L'intégration via le travail, comme on le sait d'ailleurs partout, c'est un véhicule très très important au-delà des services publics.
Est-ce que cet argent qui est nouveau, qui arriverait, ne risque pas de, d'une certaine façon, déstabiliser les économies locales et en faisant, par exemple, augmenter les prix?
Alors, deux points importants. D'une part, cet argent vise à supporter autant l'économie locale, les populations hôtes que les réfugiés syriens. C'est ce dont on vient de parler. Justement, on fait très attention à ne pas aider que les réfugiés, parce qu'autrement, il y aurait le risque auquel vous faites allusion. Par contre, il est vrai que, comme dans toute situation où il y a un impact des réfugiés, vous avez des tensions sociales, vous avez également des coûts de l'habitat qui augmentent, et vous avez parfois des baisses de salaire. Donc ça, ce sont vraiment des risques qui, toujours, pas uniquement en Jordanie ou au Liban, sont l'impact des réfugiés, et qu'il faut prendre en compte, notamment dans l'approche qui consiste à regarder de manière holistique comment on peut supporter l'ensemble des populations, et pas uniquement les réfugiés.
Est-ce que, justement, les réfugiés, eux, sont aidés plus directement par les ONG, c'est cela, et pas par la Banque mondiale ou le HCR?
Alors, il y a tout un programme humanitaire qui, en effet, vise plus particulièrement les réfugiés. Ce que l'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est il y a un constat qui est important. La crise syrienne des réfugiés n'est pas uniquement une crise humanitaire. C'est aussi une crise de développement. Et donc, l'on travaille pas de manière séquentielle. Auparavant, dans les crises précédentes, on regardait plutôt d'abord la crise humanitaire, et puis après, une fois que c'était réglé, regardez qu'est-ce qu'on peut faire en matière de développement. Au jour d'aujourd'hui, les réfugiés, on sait qu'ils ne vont pas partir demain ou dans 6 mois, même si la guerre en Syrie se termine demain. Donc l'important, c'est de regarder comment on peut aider les pays, les réfugiés, en même temps que la promotion de support humanitaire.
Alors là, on parle du Liban et de la Jordanie, bien entendu, puisqu'on sait que la situation est assez instable dans ces deux pays, en raison de cet afflux des réfugiés. On ne parle pas de la Turquie, pourquoi ?
Non, parce que ici, aujourd'hui, on parle de la Jordanie et du Liban, mais la Banque mondiale travaille de manière très étroite avec la Turquie. On a un portefeuille de plus de 60 opérations, de montant de plus de 4,3 milliards de dollars. Alors, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on parle pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient de cette initiative. Il faut dire quand même que la Jordanie et le Liban sont des pays, en termes de pourcentage d'impact des réfugiés sur leur produit intérieur brut ou sur leur population, sont vraiment une position extrême. Mais ceci dit, la Turquie est bien entendu également aidée par le groupe Banque mondiale.
Alors, ce programme d'argent pour ces pays, donc on l'a bien compris, concerne la situation actuelle, l'aide à ces deux pays pour essayer de surmonter cet afflux de réfugiés. On a l'impression que vous investissez comme si les réfugiés allaient rester longtemps. Or, ils ont, on espère en tout cas, vocation à rentrer au pays. Est-ce qu'il y a un deuxième programme en vue, notamment en termes de reconstruction?
Alors, c'est très important. C'est-à-dire qu'en effet, la Banque mondiale avec les Nations unies a lancé deux initiatives conjointes. Il ne suffit pas uniquement de s'occuper du Liban et la Jordanie qui accueillent les réfugiés, mais il faut également essayer d'anticiper à la reconstruction de la Syrie, mais également d'autres pays tels que le Yémen, la Libye. Je ne serais pas sans noter le niveau de fragilité au jour d'aujourd'hui, malheureusement, de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc cette seconde initiative ne vise pas à apporter des financements concessionnels à la Jordanie et au Liban, vise à mobiliser des fonds additionnels en mobilisant des garanties de la part des pays du Golfe, pays du G7, pays européens, pour financer les besoins de reconstruction. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, les coûts de reconstruction de la guerre en Syrie ont été estimés il y a un an et demi, deux ans, à 170 milliards de dollars. Bon, depuis deux ans, c'est évident que ces coûts ont augmenté. Cela va largement au-delà des capacités des différentes banques de développement. Donc l'objectif, c'est de mobiliser des garanties qui pourraient être données à la Banque mondiale afin d'émettre des obligations pour financer les coûts de reconstruction.
Cela dit, parler de reconstruction aujourd'hui, ce n'est pas un peu prématuré, même si à Munich, la semaine dernière, a été annoncé un cessez-le-feu, mais bon, qui aura peut-être valeur que de parole.
Non, on ne pense pas que ce soit prématuré. D'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé un an avant la fin de la guerre mondiale avec le plan Marshall, c'était un peu ça. C'était comment on peut anticiper la reconstruction de l'Europe alors que les hostilités n'étaient pas terminées. Il est toujours important d'anticiper. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons au-delà de la mobilisation des financements, avec des programmes d'évaluation des dommages créés qui ont lieu au jour d'aujourd'hui sur les pays tels que le Yémen ou à travers des images satellites. Nous essayons de regarder quels sont les impacts en matière d'infrastructure dans ces pays-là pour que le jour où le conflit s'arrête, nous serions prêts immédiatement non seulement à mobiliser les fonds, d'où l'intérêt de le faire avant et pas après, mais également à savoir exactement où il faut investir.
Un plan Marshall, c'est ce qui est important aujourd'hui de mettre en place ?
Alors, faire attention aux analogies, je pense. Je répondais à cette question dans la mesure où, en effet, il est important d'anticiper et de ne pas attendre la fin des hostilités. Mais il est évident qu'il est très important de mobiliser des ressources additionnelles, parce qu'autrement, il y a un véritable risque d'instabilité dans la région.
Merci Franck Bousquet, directeur des programmes, des partenariats et des solutions intégrées pour la région Afrique du Nord-Moyen-Orient à la Banque mondiale.
Merci.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, les funérailles de Boutros Boutros-Ghali font la une de la presse égyptienne.
Oui, et des funérailles nationales, comme le soulignent tous les journaux, des journaux qui rendent hommage à celui qui a été le chef de la diplomatie égyptienne et le secrétaire général de l'ONU. Des funérailles qui sont parties de la place de la mosquée du Mouchir et qui sont censées marquer en quelque sorte la force de l'unité nationale puisque Boutros-Ghali est chrétien. Alors c'est même le premier chrétien qui est devenu vice-premier ministre depuis la prise du pouvoir par les militaires en 1952. Alors l'occasion pour la presse de s'en prendre aux États-Unis qui avaient opposé leur veto à la reconduction de Boutros-Ghali pour un second mandat à la tête de l'ONU. Un veto qui, pour la presse égyptienne, était dû à l'attitude de Boutros-Ghali à l'égard d'Israël, un Boutros-Ghali soutenu jusqu'au bout par la France, rappellent les journaux.
Alors, ce qui fait la une de la presse israélienne, Michel Paul, c'est encore et toujours la vague de violence.
Oui, ce sujet continue, cela fait maintenant des mois à faire les titres de la une de la presse israélienne, avec cette semaine un triste record, l'assaillant palestinien le plus jeune à avoir réussi à tuer un Israélien avant d'être abattu avec son complice dans un supermarché des territoires occupés. Ils avaient tous deux tout juste 14 ans. À la une aussi, la porte de Damas à Jérusalem-Est, probablement l'endroit qui a connu le plus grand nombre d'incidents depuis le début de l'actuelle vague de violence. Les médias montrent les nouveaux moyens de sécurité qui ont été déployés sur place. Et en marge de ces attentats, on retrouve dans tous les journaux la petite phrase du chef d'état-major israélien, le général Gadi Eisenkot, qui appelle à la circonspection dans la répression des attaques. « Je ne voudrais pas voir, affirme-t-il, un soldat qui vide un chargeur sur une adolescente palestinienne armée d'une paire de ciseaux. » Une petite phrase, Eric, qui a provoqué de la colère de l'aile droite du gouvernement.
Et puis Michel, les Russes semblent mécontents de la réconciliation qui se dessine entre Israël et la Turquie.
Alors c'est une information que l'on retrouve dans le quotidien Haaretz. Il s'avère, selon le journal, que la Russie émet des réserves sur le rapprochement israélo-turc. Israël et la Turquie mènent des négociations depuis des mois et elles seraient sur le point d'aboutir. Haaretz indique que l'une des clauses de cette réconciliation accorderait un statut privilégié à Ankara pour ce qui est du passage des convois entre Israël et la bande de Gaza. Selon le journal, les réserves russes auraient été transmises au directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères et seraient liées, bien sûr, à l'incident au cours duquel un chasseur-bombardier russe a été abattu par un missile turc.
Alors on le voit, la question syrienne n'est jamais loin, Alexandre. La presse arabe parle d'ailleurs de l'ouverture d'un nouveau front en Syrie, le front kurde.
Oui, un front qui, selon la presse, est situé dans la région de Azaz, dans le nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Un front où les milices kurdes affrontent les rebelles syriens djihadistes. Alors des forces qui se livrent à une sorte de guerre par procuration entre la Russie et la Turquie. Selon la presse arabe, les Kurdes sont soutenus par l'aviation russe, tandis que la rébellion profite des bombardements turcs. La Turquie, d'où parviennent aussi des renforts en aide et en munitions. 2000 combattants auraient franchi la frontière pour se joindre aux djihadistes, selon la presse arabe. Une situation qui préoccupe certains éditorialistes qui se demandent si ces combats ne sont pas le début d'une intervention terrestre de la Turquie, une intervention soutenue par l'Arabie Saoudite.
Autre information du journal Al-Ayat, Alexandre, 200 000 Saoudiens détiendraient la nationalité américaine.
Oui, un chiffre qui est donné au journal par le responsable du Bureau américain des consultations financières et des taxes pour le Proche-Orient. Alors, des binationaux qui, conformément à la loi américaine, doivent payer des taxes sur le revenu aux États-Unis. Sinon, ils risquent 5 années de prison et 250 000 dollars d'amende. Une des raisons pour lesquelles le Bureau américain a ouvert 2 antennes en Arabie Saoudite. Alors, le journal ne dit pas combien de Saoudiens ont payé déjà leurs taxes américaines sur le revenu, ni ne révèle les noms des binationaux saoudiens les plus connus.
Alors Michel, la presse israélienne semble, elle, se passionner pour un projet de casino.
Un casino à Eilat pour voler à la rescousse économique de la ville balnéaire israélienne sur la mer Rouge. Alors c'est un projet du gouvernement israélien qui provoque de nombreuses réactions, certaines même humoristiques. Un pari politique, titre Yediot Aharonot. Un éditorial est intitulé Casino Royal. État et jetons, c'est un autre titre, en hébreu, les deux mots riment. En tout cas, Eric, les commentateurs sont unanimes. Cette curieuse initiative de Benjamin Netanyahou a très peu de chances d'aboutir.
Et puis, Michel, un sondage intéressant.
Le Likoud de Netanyahou, en perte de vitesse, au détriment de 2 autres partis de l'aile droite de l'échiquier politique israélien. C'est l'effet Sarah, nous explique le journal. Entendez, Sarah Netanyahou, l'épouse du premier ministre israélien, et les frasques de la résidence du chef du gouvernement qui défraient la chronique ces derniers mois. 62% des Israéliens pensent que les publications qui affirment que quelque chose ne va pas dans la façon de gérer le personnel de maison chez les Netanyahou sont exactes. Et pour 2/3 des personnes interrogées, cela a une influence sur les affaires de l'État.
En football, les Algériens soutiennent la Palestine contre leur propre équipe nationale. C'est un article à lire dans Al-Quds Al-Arabi, Alexandre.
Oui, et le match amical opposait l'équipe nationale olympique algérienne à celle de Palestine. Et le but officiel affiché était de soutenir les Palestiniens. Alors un objectif qui a été dépassé, souligne Al-Quds Al-Arabi, qui indique que le public algérien a soutenu les Palestiniens contre sa propre équipe nationale, une équipe qui a même été sifflée. L'expression d'un mécontentement populaire algérien à l'égard du pouvoir et des problèmes économiques que traverse le pays, estime Al-Quds Al-Arabi.
Michel, on referme cette revue de presse avec votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert lors de son entrée à la prison de Ramleh en début de semaine. Il a entamé une peine de 19 mois de prison. 82% des Israéliens s'opposent à toute remise de peine.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.